Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur les ondes courtes de la radio francophone iranienne en ce lundi 28 mars 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique à Aramco, le coup de grâce d'un Sarala. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran attend des dividendes économiques des négociations de Vienne. En état de panique suite à l'opération martyre de Hadira, l'armée israélienne renforce ses troupes en Cisjordanie et le parti au pouvoir au Nigeria nomme un nouveau président. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré dimanche 27 mars que récolter tous les dividendes économiques et la levée effective des sanctions constituent une priorité principale pour l'Iran dans les négociations sur son programme nucléaire. Monsieur Amir Abdollahian a fait ses remarques lors d'une réunion avec le secrétaire général adjoint du service européen pour l'action extérieure, Eric Mora. Il a affirmé que l'Iran avait rejoint les négociations de Vienne avec sérieux et avait présenté toutes les initiatives nécessaires pour parvenir à un accord, ajoutant que les autres parties, en particulier les États-Unis, devraient adopter une approche réaliste afin de faciliter la résolution des questions en suspens, selon le site internet de son ministre. L'absence d'une décision politique de la part des États-Unis de lever les sanctions auxquels sont liés les avantages économiques de la nation iranienne, constitue actuellement un obstacle à l'obtention de résultats définitifs, a-t-il ajouté. Plus tôt dans la journée du dimanche, M. Mora a également échangé des points de vue sur la dernière situation des négociations de Vienne avec le négociateur principal de l'Iran et vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires politiques, Ali Bareilly. Ce dernier a souligné le sérieux et la détermination de son pays à conclure un accord à Vienne, affirmant que si Washington adopte une approche réaliste, un accord serait réalisable. En état de panique suite à l'opération martyre de Hadira, l'armée israélienne renforce ses troupes en Cisjordanie. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a ordonné l'envoi de 4 bataillons en Cisjordanie. Davoud Shahab, porte-parole du djihad islamique, a loué l'opération de Hadira en la qualifiant de réaction de la nation palestinienne et de tous les épris de liberté du monde, à la réunion malveillante à laquelle avaient participé entre autres les ministres des Affaires étrangères de Bahreïn, des Émirats arabes unis, du Maroc et d'Égypte. De son côté, le Hamas a déclaré dans un communiqué que l'opération héroïque de Hadira était une réaction naturelle aux crimes commis par l'ennemi sioniste. Il s'agit d'une réaction naturelle et légitime aux crimes commis par les occupants contre la nation et les valeurs sacrées des Palestiniens, ajoute le texte. Dans ce droit fil, le porte-parole d'Ansarallah yéménite a déclaré que l'opération de Hadira était une réponse naturelle à la décision de certains pays de normaliser avec Israël. Mohamed Abdelsalam a félicité l'opération de dimanche soir à Adera et apprécié le choix des Palestiniens qui bénéficient de différents moyens pour combattre le régime d'occupation. Cette opération est une réponse naturelle à la décision perfide de normalisation et prouve à quel point la nation palestinienne est vigilante, réitère le porte-parole d'Ansar Allah. De son côté, le Hezbollah libanais a souligné que l'opération de Adera était la meilleure réponse à la rencontre perfide de dirigeants arabes avec les sionistes. À travers un communiqué, le Hezbollah a salué l'opération de Adera, soulignant que celle-ci mettait en évidence la ferme volonté de la nation palestinienne pour combattre le régime occupant par tous les moyens possibles. Cette opération est la meilleure réaction aux rencontres perfides responsables de certains pays arabes et les dirigeants du régime sioniste. Les pays qui ont choisi de normaliser leurs relations avec le régime, indique le communiqué. Le Hezbollah libanais a qualifié ces rencontres d'inutiles, car la véritable décision est celle de la nation palestinienne. La nation palestinienne rejette toute normalisation avec l'ennemi criminel et poursuit sa lutte jusqu'à l'émancipation et la victoire, réitère le Hezbollah libanais. Le 27 mars, l'armée syrienne a attaqué un véhicule MRAP de l'armée turque dans la région du nord-ouest de la Syrie, à Grand Idlib. Les soldats syriens ont pris pour cible le véhicule, un BMC Kirpi 2 avec un missile guidé anti-char, alors qu'il passait sur une route au sud-est de la ville d'Al-Atarib, dans la banlieue occidentale d'Alep. Le véhicule a été gravement endommagé. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, vitrine médiatique de l'opposition pro-occidentale, trois militaires turcs, dont un officier, ont été blessés à la suite de l'attaque au missile. Le groupe de surveillance basé à Londres a déclaré que les blessés avaient été évacués vers des hôpitaux en Turquie. Le ministère turc de la Défense n'a pour l'instant fait aucun commentaire sur l'attaque au missile. Les médias turcs ont néanmoins déclaré que l'armée turque avait répondu à l'attaque en bombardant des positions dans la banlieue ouest d'Alep. Des sources pro-gouvernementales syriennes ont déclaré que l'attaque au missile était une réponse aux frappes d'artillerie turque du 23 mars sur la ville d'Idlib, contrôlée par les Kurdes en banlieue nordique d'Alep. Les frappes ont blessé deux soldats de l'armée syrienne. L'Irak construit un mur de béton le long d'une partie de sa frontière avec la Syrie pour empêcher les terroristes de Daesh de s'infiltrer dans son territoire, a indiqué dimanche une source militaire irakienne. Dans la première étape de la construction, un mur d'environ d'une douzaine de kilomètres de long et 3,5 mètres de haut a été construit dans la province de Ninive, dans la région de Sinjar, en ouest de l'Irak, a déclaré un officier supérieur. L'Irak, qui partage une frontière longue de plus de 600 kilomètres avec la Syrie, cherche à mettre fin à l'infiltration des terroristes Daesh sur son territoire, a ajouté la source. Déjà en 2018, l'Irak a déclaré avoir commencé à construire une clôture le long de la frontière syrienne pour la même raison. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a déclaré que la construction du mur avait été réalisée dans une zone faisant face à la ville d'Al-Shadadi, dans le sud de la province syrienne de Hasaka, où en janvier dernier, des daéchistes ont attaqué une prison située dans les zones contrôlées par les Kurdes pour libérer leurs camarades. On pense que de nombreux prisonniers se sont échappés, certains traversant la Turquie voisine ou le territoire sous contrôle turc dans le nord de la Syrie, a indiqué l'OSDH. Daesh a envahi de vastes pans de l'Irak et de la Syrie en 2014, déclarant un prétendu califat avant que Bagdad ne proclame la victoire sur le groupe terroriste fin 2017 à l'issue d'une campagne intense. Mais les agissements terroristes se poursuivent bien qu'avec un rythme ralenti, en particulier dans les zones rurales et montagneuses entre la région autonome du Kurdistan irakien et la périphérie nord de la capitale. Après la visite de Falal Fayyad, le chef des unités de mobilisation populaire Ashtal Shabi en Syrie, et sa rencontre avec le président syrien Bachar al-Assad, l'Irak a fait part de son intention de construire un mur à la frontière avec la Syrie voisine. Le parti au pouvoir au Nigeria, le Congrès de tous les progressistes, APC, a choisi dimanche 27 mars Abdoulaye Adamou, sénateur de l'État de Nassarawa, centre nord du pays, pour exercer la présidence du parti avant les élections générales prévues l'année prochaine. Avec le soutien du président nigérian, Muhammadu Buhari, M. Adamou a émergé comme le candidat faisant consensus au sein de l'APC. après la démission de 6 autres candidats au cours de la convention nationale du parti qui s'est ouverte samedi à Abuja, la capitale nigériane. Le nouveau président du parti au pouvoir a été élu sans opposition au terme d'un vote par acclamation. L'événement a réuni des délégués et des membres de l'APC de tous les États du pays. Le parti au pouvoir n'avait plus de chef depuis 21 mois. Au cours de cette période, les affaires courantes du parti avaient été confiées à un comité intérimaire dirigé par un gouverneur. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Aramco, le coup de grâce d'Ansar Allah. Les régions stratégiques et importantes de l'Arabie Saoudite ont été prises pour cible par des missiles et drones d'Ansar Allah, ce qui a bouleversé les équations régionales et mondiales. Dans un communiqué publié dans la soirée du vendredi 25 mars, le mouvement yéménite d'Ansar Allah a annoncé la troisième grande opération visant à briser le blocus saoudien contre le Yémen, au cours de laquelle 18 cibles dans le sud et le centre de l'Arabie Saoudite ont été attaquées par drones et missiles d'Ansar Allah. Le communiqué précise que les installations d'Aramco à Jeddah et des cibles vitales à Riyad ont été prises pour cible par des missiles de croisière, tandis que les raffineries de Ras Tanura, Rabir et les installations d'Aramco à Jizan et Najran ont été attaquées par des drones suicides et des cibles vitales à Baha, Khamis Mushait et Zahran par des missiles. Les analystes experts des affaires régionales repèrent des points importants de cette opération stratégique. Tout d'abord, l'opération coïncide avec l'anniversaire du lancement de la campagne militaire de la coalition saoudienne contre le Yémen, ce qui fait comprendre à l'ennemi saoudien que l'équilibre de force a changé en faveur des Yéménites. Les frappes menées dans le cadre de cette opération ont causé de graves dommages et dégâts à l'Arabie saoudite. La ligne de production d'Aramco ayant été anéantie, le géant pétrolier diminue sa production de 70%. À cela s'ajoutent les pertes concernant les réserves de pétrole de Jeddah, qui comptent plus d'un quart de réserves de carburant saoudiennes. Du point de vue militaire, les forces yéménites sont passées de position défensive à celle offensive. L'opération était sans précédent du point de vue de l'étendue géographique des cibles visées et des zones d'opération. Près de 18 cibles militaires ont été attaquées, dont certaines se situent à 1000 km de distance du Yémen. Les frappes ne se sont pas d'ailleurs concentrées seulement sur des zones militaires et s'élargissent à des cibles vitales et des infrastructures. Ansar Allah est clair. Vous attaquez nos infrastructures, nous attaquerons les vôtres. L'opération porte aussi plusieurs autres messages aux pays participants à la coalition saoudienne, dont et surtout les Émirats arabes unis, les appelant à changer de stratégie envers le Yémen. D'autant plus que les Émirats comptent un nombre de cibles vitales et qu'ils envisagent de mettre sur pied la plus grande usine de dessalement, soit le troisième projet de dessalement au monde. Ces frappes d'envergure ont mis en ruine la stratégie de sécurité contre pétrole. L'Arabie saoudite souhaitait que le pétrole qu'elle offre généreusement aux Américains garantisse sa sécurité. Or, ces opérations ont créé des défis majeurs pour le royaume des Wahhabites, dont le plus important se traduit par la guerre de pouvoir entre les princes qui, eux, étaient dès le début contre les politiques du prince héritier Mohammed bin Salman envers la guerre au Yémen. Toutes ces frappes et opérations couronnées de succès ont prouvé que les systèmes ô combien chers de défense aérien américain vendus à Riyad ne lui ont servi à rien. L'Arabie saoudite n'est que cette fameuse vache à lait pour les Américains. Les récentes opérations d'Ansar Allah ont d'ailleurs changé toutes les équations et évaluations mondiales. Après avoir imposé des sanctions sans précédent au secteur énergétique de la Russie, les pays européens et même les États-Unis espéraient pouvoir compter sur l'Arabie saoudite pour compenser le manque de pétrole, tout comme ce qui s'est passé après l'établissement des sanctions contre l'Iran. L'Arabie saoudite leur a fourni le pétrole dont ils avaient besoin alors que l'Iran n'avait plus le droit d'en exporter. Mais les attaques contre les réserves de pétrole et les raffineries saoudiennes ont bouleversé les évaluations et basculé les calculs. L'Arabie saoudite n'est plus en mesure de garantir l'énergie à l'Europe. Dans le plus optimiste des cas, Riyad peut maintenir l'exportation quotidienne de millions de barils. Plus de 8 ans de guerre au Yémen n'ont rien apporté à Riyad, que pertes et dommages.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 26 mars 2022. La coalition d'agression militaire sous commandement saoudien est plus que jamais dans l'impasse. 7 ans, jour pour jour, après le début de son offensive contre le Yémen. En effet, 7 ans après les premières frappes contre le Yémen, le 26 mars 2015, l'intervention militaire de Riyad et de ses alliés régionaux et internationaux s'est soldée par un échec total, ayant causé la mort de centaines de milliers de personnes et provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde. Sur le terrain, la résistance yéménite a multiplié ses attaques aux drones et aux missiles contre l'Arabie saoudite, mais aussi les Émirats arabes unis, et changé, notamment au cours des derniers mois, le rapport des forces. À cette occasion, la diplomatie iranienne a appelé à la fin de l'agression saoudienne et du blocus cruel imposé à la population yéménite, soulignant en effet la nécessité d'un dialogue pour mettre fin à cette crise, à cette guerre, en dehors de toute ingérence étrangère. Aujourd'hui, et à l'occasion du 7e anniversaire de la guerre saoudienne contre le Yémen, nous allons analyser les principales raisons de l'échec de la coalition saoudo-occidentale au Yémen, les victoires successives de la résistance yéménite, ses percées technologiques et militaires et la perspective, en effet, du conflit au Yémen. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
De quelle nature pourrait bien être cette mer des surprises que le ministre yéménite de la Défense, Nasser Al-Attefi, vient de promettre à la coalition saoudo-émirati ? Surprise qui a le croire, et on peut effectivement le croire, car en 8 ans de guerre, Ansar Allah n'a jamais bluffé, changera définitivement le rapport des forces et dont la perspective semble avoir terrorisé non seulement l'Arabie saoudite et les Émirats, mais encore cette partie qui agit depuis 2015 dans leur ombre et en toute discrétion, à savoir Israël. Vu l'ampleur inattendue qu'ont pris depuis le 14 mars les frappes balistiques d'Ansar Allah ou les combinaisons missiles balistiques, missiles de croisière, drones ont étendu étape par étape leur champ d'action pour cibler d'abord le sud, puis le sud et le centre. Et enfin, et lors d'une seule opération, le sud, le centre et l'ouest avec un filigrane, Riyad, Yanbu, Jizan Daran et Pakaramko et les sites pétrogazier que la résistance yéménite frappe régulièrement au point d'endosser la production et influer le marché mondial du pétrole. Mais encore, et pour la première fois, des installations pétrochimiques et surtout les usines de dessalement signent que le conflit dépasse le seuil de l'irréversible. Cette surprise ne pourrait qu'être de nature balistique. Selon une toute dernière information, les Saoudiens sont dans tous leurs états, tout comme les Émirats, depuis qu'Ansar Allah a établi une énième équation de force, ciblage des infrastructures saoudiennes, eau, électricité et pétrole, contre levée de l'embargo. Et la panique est si profonde que l'axe Riyad-Abu Dhabi en a été à frapper à la porte du Hezbollah pour une médiation. Et si ce n'était que des infrastructures ? Ansar Allah a clairement fait comprendre qu'il fermera le détroit de Bab el-Mandeb et qu'il possède tous les moyens pour le faire. Du coup, l'axe US-Grande-Bretagne, Riyad-Abu Dhabi voit partout en mer Rouge des bateaux piégés, des mines sous-marines et même des torpilles et tire évidemment sur tout ce qui bouge au nom de la prévention. En effet, cette crainte n'est pas uniquement celle de Riyad ou d'Abu Dhabi, mais aussi et surtout celle d'Israël. Car qu'on se le dise, l'une des principales raisons de la guerre menée par les États-Unis et ses sbires aura été le contrôle des voies navigables, en particulier de Bab el-Mandeb, en raison de son importance géopolitique qui rend celui qui le contrôle le maître d'au moins 10% du mouvement commercial international. Bref, la faim subie par des millions de Yéménites aura un prix infiniment lourd à payer, largement bien plus lourd que le seul dysfonctionnement d'Aramco.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique, et depuis Paris avec Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales. Madame Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci de votre invitation. Merci. Bonjour. À toute l'équipe Presse TV, à Maître Develay aussi.
Merci, Madame Idani. Madame Idani, alors, 7 ans, jour pour jour, après le début de l'offensive saoudienne contre le Yémen, le constat est unanimement partagé, à savoir le fiasco total du camp saoudo-occidental, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Alors, si on remonte en arrière, sur le plan politique et militaire, bien entendu, alors les motivations politiques et économiques constituaient, entre autres, des principales raisons de l'intervention militaire de la coalition d'agression saoudienne. Mais aujourd'hui, comme vous le savez très bien, alors, le régime de Riyad a mobilisé tous ses moyens et instrumentaliser en effet toutes les questions, entre autres la crise ukrainienne, on va y revenir justement, pour pouvoir sortir du bourbier yéménite. Alors, quel premier regard portez-vous sur les principales raisons de l'échec, de la défaite en effet du camp saoudo-occidental au Yémen?
D'abord, elles sont assez nombreuses, je peux dire. D'abord, c'est une agression en bonne et due forme, l'Arabie saoudite et les Émirats sous le contrôle des Américains ou à la demande des Américains mènent depuis 7 ans contre le peuple yéménite, qui est un peuple qui n'a agressé personne. Ils l'ont agressé non seulement en bombardant, mais de manière absolument folle. C'était une folie tueuse, en détruisant toute l'infrastructure, toutes les possibilités de vie, etc., en bombardant même la population civile de manière à faire le maximum de morts et de blessés, en faisant un blocus qui empêche aussi le peuple de vivre dans une période de corona et donc empêchant toute arrivée de secours et humanitaire et de moyens de vie du style les produits pétroliers, les produits de première nécessité, les produits alimentaires, etc. en ayant détruit tous les moyens de production aussi yéménites. Donc c'est une guerre meurtrière criminelle qui est menée contre le peuple, peuple yéménite depuis 7 ans. Un autre point, donc face à cela, bien sûr, c'est à la commande des États-Unis et d'Israël. Et l'objectif principal de cette guerre, c'est que permettre toujours ou que les Américains, par le biais des Saoudiens et les alliés, donc émiratis, puissent avoir la main mise sur tous les passages de l'eau, en fait tous les passages maritimes du commerce international. Il faut quand même savoir qu'il y a bon nombre, justement un pourcentage important du commerce international qui transite par Bab el-Mandeb, la mer Rouge, et puis qui passe dans le canal après. Donc ça, cette agression, elle est caractérisée, elle est je dirais, pour toute personne qui a un peu de conscience et qui a un peu d'humanité, elle ne peut que la réfuter, la rejeter, etc. Face à cela, les deux poids deux mesures américains de la presse internationale, ils ont complètement gardé sous silence et occulté toute expression du peuple yéménite et toute expression concernant ces crimes qui sont commis tous les jours contre le peuple yéménite. Un autre point qui est important à voir, c'est que cette agression a renforcé l'axe de la résistance, a renforcé les liens tissés entre les révolutionnaires yéménites et les révolutionnaires de la région, la République arabe, la République iranienne, islamique de l'Iran, mais aussi ils ont augmenté leurs liens avec l'ensemble des pays de l'axe de la résistance, avec la Palestinienne, avec le Hezbollah et la Syrie. Donc en fait, les révolutionnaires yéménites ont pu tisser effectivement ces liens importants. Ils sont soutenus et eux-mêmes, ils ont aussi tisser leurs liens avec l'ensemble des composantes du peuple yéménite, ce qui fait que l'échec, il est venu non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan social. Ils ont réussi à reconstituer, à constituer une unité sociale du pays, une unité nationale du peuple yéménite, alors que les Saoudiens et les Émiratis voulaient diviser à coup de billets, je dirais, et à coup d'avantages comme ça distribués. Mais en fait, c'est vrai que l'ensemble, le Ansar al-Mar ont réussi par une grande diplomatie et une grande capacité à la fois diplomatique, mais aussi l'amour de leur pays. Ils ont réussi à convaincre tout le monde à se rallier à eux. D'où aussi la libération d'une grande partie du territoire yéménite et la reprise de contrôle, en fait, de l'ensemble de la société. Ça, c'est un point qui est très, très important.
Merci, Madame Edani.
Et puis, l'aide du front de la résistance.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Damas Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, merci à vous et bonjour à Madame Edani.
Maître Develet, alors, 7 ans après le début de l'offensive saoudienne contre le Yémen, où en est-on de cette guerre sur le plan militaire, sur le plan politique, sans oublier, bien entendu, d'une part, les conséquences désastreuses de cette offensive sur la situation humanitaire, sans oublier l'implication des pays occidentaux avec leur géométrie variable, en effet, leur politique de deux poids, deux mesures, notamment sur le droit international, et avec cette intelligence, non seulement diplomatique, mais surtout stratégique de la résistance yéménite.
Alors vous l'avez souligné, la guerre au Yémen est un marqueur plus que jamais de cette évolution rapide de l'ordre géopolitique actuel. Et quand je dis l'ordre géopolitique, ce n'est pas seulement les relations internationales entre États, mais aussi l'ordre institutionnel lui-même, dans la mesure où, vous le soulignez à l'instant, alors même que l'hystérie médiatique bat son plein concernant l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, la guerre du Yémen est sur le point d'entamer sa 8e année et dans un silence médiatique et je dirais institutionnel assourdissant, avec près de maintenant 400 000 victimes civiles, 60% étant plus ou moins atteints par les dégâts causés par les bombardements incessants, destruction des infrastructures, des hôpitaux, accès à la nourriture compromis, avec donc une famine, une épidémie de choléra qui est complètement hors de contrôle. Et malgré tout, Madame Midani a bien fait de souligner, la résistance yéménite et l'armée yéménite ont réussi à créer une cohésion qui permet, bon l'an, mal an, de subvenir aux besoins de la population. Et c'est ce qui fait justement qu'aujourd'hui, ils sont la seule autorité légitime politique au Yémen, et qu'en cela, le cadre adopté par les Nations Unies fin 2015 au travers de cette résolution 2216 est complètement obsolète, non seulement grâce à cette action concertée de la coalition de la résistance yéménite, l'armée yéménite, comme je le disais à l'instant, mais aussi, et c'est surtout la grande différence après 7 ans de conflit, c'est l'inversion totale de l'équation militaire, avec une résistance qui maintenant est capable de calibrer à la dizaine de mètres près ses attaques, déjouer tous les systèmes de détection radar les plus sophistiqués et compromettre sérieusement la capacité pour les principaux membres de la coalition, donc à savoir l'Arabie Saoudite et les Émirats, à pouvoir financer, générer et eux-mêmes continuer avoir une économie qui soit attrayante et propice aux investissements. J'ajouterais à cela que dans l'ordre fluctuant actuel de la géopolitique, où on entend des rumeurs comme quoi Riyad serait par exemple tenté de réactiver des pourparlers avec la Chine portant sur la vente de leur crude en yuan. En cela, ne se laisse pas compter. Ils ont utilisé la plateforme médiatique générée par le sommet de la conférence islamique à Islamabad pour se rappeler au bon souvenir, par exemple, des Chinois qui seraient peut-être tentés de fournir eux-mêmes remplacer, si je puis dire, peut-être certains États occidentaux dans la fourniture de systèmes de défense balistique qui fassent le travail, entre guillemets, ou alors par rapport, comme je le disais à l'instant, de collaborer avec Riyad sur l'échange énergétique, en disant faites attention, calculez bien vos intérêts sur le long terme, parce que nous sommes là, nous n'allons pas disparaître, nous sommes de plus en plus forts, nous avons la main sur les opérations militaires. C'est une question, il faut bien le comprendre. On n'est pas du tout dans une situation plus ou moins similaire à ce qu'on pourrait voir en Ukraine, où on peut penser qu'en quelques semaines, les objectifs stratégiques seront accomplis. C'est vraiment une guerre d'attrition, où la population civile est vraiment ciblée comme paramètre principal par la coalition pour essayer de la retourner contre la résistance yéménite. Cela a échoué. Et en cela, maintenant, c'est une situation où même l'ONU n'intervient pas. L'ONU devrait faire des déclarations, en tout cas militer de manière beaucoup plus active pour essayer de mobiliser, en tout cas, les membres les plus influents du Conseil de sécurité afin que ceux-ci entreprennent des démarches qui viserait à rédiger un texte qui prenne en compte la réalité telle qu'elle est aujourd'hui et qui surtout, plus que n'importe quoi, mette en avant, appelle à la, comment dirais-je, à la rupture de, cette, de ce blocus qui ne peut plus être toléré. Merci. Indépendamment de questions politiques et militaires.
Merci pour ces éclairages, Maître de Velay. Madame Edani, alors Maître de Velay a parlé à juste titre de cette hystérie en effet médiatique mais aussi diplomatique occidentale. Alors si vous faites un parallèle entre ce qui se passe au Yémen, ce qui s'est passé au cours des dernières années, de sept dernières années au Yémen et la situation actuelle en Ukraine. Justement, là, on a l'impression que les pays occidentaux, les prétendus défenseurs des droits de l'homme, en effet, agissent non pas sur la base des considérations humaines et morales, mais sur la base d'alliances et des considérations politiques.
Absolument. Et donc, pas seulement, d'ailleurs, nous avons vécu ceci en Syrie aussi, toute cette... ce déchaînement médiatique contre la Syrie, contre toute force qui s'oppose au diktat américain, ces déchaînements médiatiques aussi contre la Russie, alors que la Russie mène une opération quand même de nettoyage en Ukraine des nazis et surtout s'oppose justement à la présence militaire nucléaire aussi à ses portes, mais aussi contre l'existence de ces laboratoires qui travaillent sur des armes biologiques qui sont aussi à ses portes. Donc on a bien vu ce monde qui se targue justement de droits de l'homme et puis de défense des êtres humains, qui aussi et non seulement complice de ces embargos criminels qui visent à affamer les populations, à multiplier les morts et les blessés, et tout ça pour appliquer leur diktat, le diktat américain, en fait, sur ces pays et sur leur politique, et en fait, continuer à piller aussi les ressources de ces peuples et de ces pays. On voit bien qu'en Syrie, les Américains, la présence américaine pille le pétrole systématiquement, le pétrole syrien, alors que les Syriens sont complètement laissés dans le froid, dans l'obscurité et visent aussi à... ils essayent d'affamer... et donc en brûlant les cultures, en volant le blé, etc. Donc en fait, c'est l'ordre de la réalité. Ce sont des masques dont il se parle, des masques humanitaires, etc., dont il se parle, mais pour cacher leur politique d'avancée de contrôle, d'avancée de violation.
Merci, Madame
Denis. Des souverainetés des peuples et de pillage systématique de leurs richesses.
Merci infiniment.
C'est la politique impérialiste par excellence, en fait, de toute façon, ça a toujours été.
Merci infiniment. Alors, on va tout de suite, alors je vais poser une toute dernière question à Maître de Velay. Maître de Velay, il nous reste 3 minutes, très rapidement, s'il vous plaît. Selon une récente information, l'Arabie saoudite aurait annoncé en effet une baisse de sa production pétrolière en pleine sanction occidentale contre le pétrole et le gaz russe. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire chanter les pays occidentaux, de les contraindre en quelque sorte à fermer les yeux sur les crimes que l'Arabie commet en effet au Yémen, ou encore peut-être de l'aider l'Arabie saoudite à sortir d'une façon honorable du bourbier yéménite?
Je pense que la seule façon pour l'Arabie saoudite de sortir du bourbier de façon honorable va être de se présenter eux-mêmes par le biais de leur équipe de négociation et de se rendre à Sanaa, se rendre à Canossa, comme dirait l'autre. On a pu constater récemment qu'au travers du JCC, Riyad avait instrumentalisé le Conseil des pays du Golfe pour essayer d'approcher la résistance yéménite avec une offre de négociation, mais qui était conditionnée à ce que la résistance yéménite vienne à Riyad, ce qui aurait été un affront, bien sûr. Ce n'est pas du tout un reflet de la situation militaire actuelle. Ansarullah et l'armée yéménite tient les rênes à la dynamique de leur côté, et ils ne vont certainement pas vendre l'honneur de la population civile yéménite pour un prix dérisoire qui passerait en plus de ça par à Riyad. Maintenant, pour répondre à la question que vous aviez posée, je pense qu'il s'agit avant tout pour Riyad d'essayer de compenser les pertes économiques justement occasionnées par le conflit, parce que la guerre, ça coûte cher, et que dans ce contexte-là, ils essayent de jouer un petit peu à un système. Il serait un peu celui qui donne les ordres auprès des États-Unis ou conditionne les choses. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les États-Unis attendent de Riyad que Riyad fasse ce que Washington dit. Et que dans ce contexte-là, ce serait peut-être un jeu dangereux pour Riyad d'imaginer qu'il puisse mettre un terme à 80 ans de pratiques bilatérales en conditionnant tantôt une augmentation de la production à une implication américaine accrue justement au Yémen, ou en pensant qu'ils peuvent garder, si je puis dire, leur capacité en deçà de ce qui est possible, afin de indirectement créer des dégâts économiques aux économies occidentales qui, en plus de ça, on s'aperçoit maintenant, se sont tirés une balle dans le pied en se privant du gaz et du pétrole russe. Et maintenant, avec le dollar qui est lui-même menacé dans son statut de réserve mondiale, c'est un jeu dangereux pour Riyad. On est plutôt en présence d'une direction qui n'a pas de stratégie globale, qui réagit au coup par coup à l'évolution géopolitique actuelle, mais qui risque de se brûler les ailes en faisant le mauvais calcul.
Maître Arnaud Develay, juriste international, analyste politique depuis Damas. Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris. Merci infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Une vie, une œuvre.
Auteur réputé de livres pour enfants, Mehdi Azhar Yazdi est né en 1922 à Yazd et meurt en 2009 à Téhéran. Ses ancêtres faisaient partie des Zoroastriens convertis à l'islam. Il a appris à lire et à écrire de son père et a ensuite poursuivi ses études par lui-même. Adolescent, il passait son temps à lire des livres, notamment le Coran, Mafatihul Jinan, Masnavi de Molavi, les œuvres de Sa'di de Shiraz et le divan de Hafez. En 1944, il quitta sa ville natale et alla vivre à Téhéran. Azhar Yazdi a travaillé comme ouvrier du bâtiment et simple ouvrier dans des ateliers de tissage de chaussettes, des maisons d'édition et des librairies. Il a travaillé aussi pour des maisons d'édition réputées comme Amir Kabir, Ashrafi et Etelerat. Il a commencé sa carrière en 1956. Ses livres sont des adaptations d'œuvres de la littérature persane classique réécrites pour les enfants dans un style facile à comprendre. Son livre, le plus remarquable, était « De bonnes histoires pour de bons enfants », écrit en 8 volumes, basé sur plusieurs œuvres de la littérature persane, dont Kalila et Dimna, Golestan, Masnavi et Manavi, Marzban-Namé, Sambad-Namé, Rabus-Namé, Maghalat de Shams Tabrizi, Jamiul Hikayat, Siyasat-Namé et quelques histoires du Coran et de la vie du prophète Mohammed et des 14 imam infaillible. Le livre a remporté un prix de l'UNESCO en 1966. De bonnes histoires pour de bons enfants a été traduit en plusieurs langues, dont l'espagnol, l'arménien, le chinois et le russe. Mehdi Azaliasi est également l'auteur de « Chat méchant, chat joueur, histoire simple, poésie du sucre et du miel et Masnavi des bons enfants ». Une autre de ses œuvres, « Adam », a été élu meilleur livre de l'année en 1968. Azaliasi a dit un jour, lors d'une cérémonie organisée par l'Association iranienne des luminaires en son honneur, en février 2007, « Quand j'avais 35 ans, j'ai quitté Yazd et j'ai ensuite commencé à lire Kalila et Dimna, ce qui est très difficile. Cependant, je l'ai trouvé très beau et j'ai ensuite décidé d'écrire pour les enfants. Je ne cherchais ni la gloire, ni l'argent. Je voulais seulement faire du bon travail. J'ai donc écrit de bonnes histoires pour de bons enfants. » Azaliasi est décédé en 2009, après une période de maladie à l'hôpital Atiyeh de Téhéran, et son corps est enterré dans sa ville natale, Yazd. Le jour de sa mort a été choisi comme Journée nationale de la littérature pour enfants. Hushang Moradi Kermani, né le 7 septembre 1944, est un écrivain iranien qui écrit généralement pour des enfants et des adolescents. Il est né à Sirsht, un village de la province de Kerman, et a complété son éducation à Sirsht, Kerman et Téhéran. Quelques-uns des films iraniens et des séries télévisées sont basés sur ses livres. En 2006, Dariush Mehdjoui a réalisé « Mehman et Maman »,« Invité de maman », d'après le roman de Moradi Kermani, avec le même titre. Quelques livres de Moradi Kermani ont été traduits en anglais, allemand, espéranto, français, espagnol, néerlandais, arabe et arménien. Son autobiographie est publiée comme son dernier livre intitulé « Croyez-le ou pas » (Chemin Kerali Benistit). Il a gagné de nombreux prix nationaux et de prestigieuses récompenses internationales comme le diplôme honorifique de Hans Christian Andersen en 1980 et le livre de l'année de l'Université de San Francisco en 2000. Quelques-uns de ses livres, Les récits de Majid, Une botte, Le palmier, Le conte de la jarre, La cruche, traduit en français par Chantal Lebrinquery, Invité de maman, Point sur la peau, Le sourire de la grenade et Croyez-le ou pas. Sader Choubak, né le 5 août 1916 et mort le 3 juillet 1998, était un auteur de nouvelles, de drames et de romans. Ses nouvelles se caractérisent par leur complexité, leur économie de détail et leur concentration sur un seul thème, ce qui conduit certains à les comparer aux peintures miniatures persanes. Choubak était un naturaliste et ses romans reflétaient le côté sombre de la société. Il était un ami très proche de Sader Hedayat, qui était un écrivain influent à cette époque. Sader Choubak est né à Boucher, où il a d'abord étudié avant de déménager à Shiraz, puis à Téhéran. Pendant un certain temps, il a été employé au ministère de l'Éducation et à la compagnie pétrolière. Largement considéré comme le plus grand écrivain naturaliste de la littérature persane, il a écrit une grande quantité d'œuvres, notamment des romans, des nouvelles et des pièces de théâtre. Dans ses œuvres, Choubak étudie la vie des personnes opprimées de la société qui sont victimes d'iniquités et de forces déterministes naturelles. Sympathique aux chagrins et aux misères de ces personnes, il propose une seule solution: combattre la corruption et l'injustice. Son roman Tangsir détaille les actes valeureux des combattants du Tangestan. Il a été traduit dans de nombreuses langues. Le cadre de cette histoire est Davos. habitée principalement par des personnes migrant d'autres parties de la province de Bushehr, y compris le Tangestan. Irrité par l'injustice sociale, le protagoniste, Zar Mohammad, prend la justice en main et combat les iniquités sociales. Zar Mohammad a gagné une somme d'argent considérable et se lance dans le commerce, mais il est arraché de son argent par le gouverneur. Amèrement désespéré par le retard ou l'absence de justice, il prend un fusil et tue un à un ses ennemis. Après le meurtre des fraudeurs, il est surnommé Shir Mohammad, Mohammad au cœur de lion, par les villageois. Le thème de la justice et de la vengeance remplit toute l'ambiance du roman. Une fois que la loi tardera à rendre justice à ceux qui la méritent, l'anarchie prévaudra avec, pour conséquence, que les gens décideront de leur propre sort et exerceront la justice à la lumière de leur propre définition du concept. Chubak déplore l'injustice sociale et l'ignorance aveugle des législateurs. La quête de justice se transforme en une mission messianique pour le protagoniste qui en vient à être considéré par les autres villageois comme un homme chargé de les libérer des mains tyranniques. Après de longues épreuves, Shir Mohammad échappe à l'emprise de la loi. Chubak dépeint un monde très brutal dans lequel les gens sont extrêmement mortifiés et ne peuvent pas se voir les uns les autres.